Et on commence ce journal avec les 6 études parues dans la revue Science et Science Advances. Il y a bien eu de l'eau liquide sur l'astéroïde Bennu.
Oui, depuis bientôt 2 ans, la sonde de la NASA Osiris-Rex observe Bennu sous toutes ses coutures. Grâce à ces études, nous en savons plus sur la composition de l'astéroïde qui se révèle plus complexe que prévu. L'analyse spectrale dans l'infrarouge et le proche infrarouge confirme la présence de minéraux hydratés et de composés organiques sur toute sa surface. De plus, les analyses révèlent des veines brillantes de minéraux carbonatés d'un mètre de long et épaisses de quelques centimètres. En d'autres mots, ce serait la preuve que de l'eau a coulé autrefois sur ces rochers. Dans quelques jours, un échantillon de Bennu sera prélevé pour revenir sur Terre en 2024. On va ainsi pouvoir analyser ces roches avec des instruments plus précis. La mission d'Osiris-Rex est d'ores et déjà qualifiée de triomphe scientifique majeur. Antonella Barucci est chercheuse et paléontologue à l'Observatoire de Paris.
La chose importante, c'est pas lié qu'à Bennu lui-même, mais après, pour les transmettre à toute la population des astéroïdes. Donc avec tous ces détails sur l'astéroïde Bennu, très important, on va les appliquer après à toute la population des astéroïdes et la ceinture des astéroïdes entre Mars et Jupiter, en particulier sur les NIRF, qui sont les astéroïdes appelés les géocroiseurs, qui passent très proches à la Terre. La grande surprise, c'est d'abord qu'il y a ce matériel organique. Donc, Bennu, c'est un objet primitif du système solaire, donc très important, comprendre sa composition, parce qu'avec la composition de Bennu, on peut comprendre la composition de l'origine du système solaire. Mais la chose incroyable, c'est le contenu des matières organiques, des carbonates, et donc des matériaux hydratés, qui implique qu'il y avait l'eau à l'état liquide aussi sur la surface de Bennu. Et donc là, il y a tous les problèmes de l'origine de la vie sur Terre, qui a apporté l'eau sur Terre, qui a apporté les premières molécules importantes pour l'origine de la vie, etc.
Voilà, et la source de cette étude dans Science, vous pouvez la retrouver sur notre fil Twitter, @lapéthodefc, ainsi que sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Une étude parue également dans Science Advances vient de déterminer la vitesse maximale du son.
Et depuis 1905, on sait avec Einstein et sa théorie de la relativité restreinte que la limite de vitesse de tout type d'onde qui traverse le vide, dont la lumière, est de 300 000 km par seconde. Mais quelles sont les limites pour les ondes sonores lorsqu'elles se déplacent à travers un solide ou un liquide? Selon ce qu'il traverse, le son se déplace à des vitesses différentes. Sa vitesse dépend de la densité d'un matériau et de la manière dont les atomes qu'il contient sont liés entre eux. Une équipe internationale de physiciens vient de calculer cette limite pour la première fois. Selon leurs calculs, la vitesse maximale du son dans un liquide ou un solide est d'environ 36 km par seconde.
Selon le rapport annuel de l'Agence spatiale européenne, le problème des débris spatiaux s'aggrave.
Et selon ce rapport, l'utilisation durable de l'espace pour la science et les technologies est à présent menacée. Nous serions entrés dans un cercle vicieux. Plus de débris spatiaux, cela veut dire plus de risques de collision qui engendrent même des milliers de petits débris supplémentaires, etc., etc. Aux vitesses orbitales, même les plus infimes débris peuvent endommager un satellite opérationnel. Le rapport pointe un autre facteur explosif, les explosions liées au carburant stocké dans les engins obsolètes. L'ESA propose également des solutions dans ce rapport, des orbites cimetières ou des remorqueurs spatiaux. L'agence appelle les entreprises et les nations à considérer plus sérieusement ce problème.
Et enfin, une étude parue dans la revue Dreaming a examiné comment la pandémie a affecté nos rêves. Et
grâce à une enquête en ligne, des chercheurs américains ont recueilli les rêves de près de 3000 rêveurs. Un programme d'analyse de texte et de décompte des mots a permis de faire apparaître 9 catégories d'émotions et de préoccupations. L'étude montre que les femmes ont eu beaucoup moins d'émotions positives dans leurs rêves que les hommes. Elles ont également connu beaucoup plus d'anxiété, de tristesse, de colère et de rêves liés à la santé et à la mort qu'avant le début de la crise. En revanche, les rêves chez la gente masculine semblent avoir été moins perturbés, moins d'émotions négatives, moins de rêves de tristesse, de colère ou de cauchemars liés à la mort que chez les femmes.